sommes donc dans l'évangile de Marc, le chapitre 7. Donc, c'est à la page 649. On va lire les versets 1 à 13. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi, venus de Jérusalem, se rassemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire le repas avec des mains non lavées ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Je vous invite à la prière. Prions. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour cette parole, cet avertissement. Notre Père, nous voulons te demander ce matin de nous parler par cette parole. Aide-moi dans cette prédication à être fidèle à la parole. Et donne-nous de la clairvoyance, donne-nous de voir, du discernement. Nous en avons besoin, nous avons besoin de l'aide de ton esprit. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Alors, en l'an 1517, un moine allemand du nom de Martin Luther a déclenché un mouvement théologique, intellectuel, ecclésiastique, spirituel, politique même, qui a littéralement changé la vie de l'Europe, sinon de la planète tout entière. Alors, qu'est-ce qu'il a fait au juste ? Il a placardé 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, une petite ville au sud de Berlin, en Allemagne. Luther protestait. Il protestait contre ce qu'il percevait comme des abus de l'autorité de l'église catholique romaine. Et en particulier, il protestait contre la vente de ce que l'église catholique appelle, même jusqu'à ce jour, des indulgences. Alors, qu'est-ce que c'est une indulgence? Alors, c'est un peu comme un certificat, une promesse qu'on pouvait acheter de l'Église. Et sur l'autorité de l'Église, cette promesse, ce certificat, laverait les péchés de son titulaire ou libérerait un membre de sa famille du purgatoire. Donc, ça, c'est le lieu que les catholiques croient être un lieu de purification qu'on entre avant de passer au ciel. Et à l'époque, au XVIe siècle, il y avait des campagnes de vente pour financer l'actuel sanctuaire de Saint-Pierre au Vatican, à Rome. Et ce moine, Luther, était furax parce que lui, il voyait l'effet sur les fidèles de son église, là où il prêchait dimanche après dimanche. Ils achetaient ces choses. Et ça lui faisait de la peine parce qu'il savait que le pardon ne peut pas s'acheter de cette manière-là. Sans une repentance, sans une foi en Jésus, une foi sincère. Et c'est ainsi que le mouvement de la réforme protestante est né. Alors ce matin et la semaine prochaine, on va faire deux prédications assez différentes de ce qu'on fait habituellement. Ces deux prédications sont d'ordre vraiment exceptionnel parce qu'habituellement, on prend un seul passage de la Bible et on l'expose, on l'écoute et puis on l'applique à nos vies. Et c'est vraiment notre conviction profonde que ça, c'est la meilleure manière de nous nourrir spirituellement, semaine après semaine. Nous mettre à l'écoute d'un texte et de voir vraiment ce que Dieu nous dit par ce texte. On a besoin de telles prédications. Mais en même temps, de temps en temps, ça peut être utile d'avoir un thème et de voir globalement ce que la Bible dit. Et cette semaine et la semaine prochaine, on va juste prendre ce thème des différences entre l'Église catholique romaine et l'Église protestante évangélique. On ne l'a jamais fait, c'est la première fois en 6 ans. Alors, on le fait, soyons clairs dès le début, bien sûr, il y a pas mal de choses que nous avons en commun avec l'Église catholique romaine. Notre compréhension de la Trinité, on a vu ça la semaine dernière dans le texte dans l'Évangile de Jean, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a les deux natures de Jésus, c'est un peu le message de Noël, l'incarnation, le fait que Dieu s'est fait homme. Mais il y a quand même beaucoup de différences et ces différences demeurent et ces différences sont très importantes. Alors, on ne fait pas cette série pour polémiquer, c'est vraiment pas la peine. On ne le fait pas pour casser du sucre sur le dos de l'Église catholique ou pour flatter notre ego, mais on veut le faire pour gagner nous-mêmes en clarté, pour nous aider nous-mêmes à éviter certaines erreurs et aussi pour nous permettre tous de dialoguer, de parler de manière intelligente avec nos amis catholiques, les catholiques qui nous entourent à la Garenne et ailleurs, peut-être au travail. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que l'Église protestante existe? Et pourquoi est-ce qu'elle existe encore? Toujours. Après tant de siècles, ne pourrions-nous pas tout simplement mettre de côté nos différences? Faire cause commune? Vivre la foi ensemble? Et je pense que ça, c'est bien tentant parce que nous vivons tous, protestants et catholiques, dans une société de plus en plus déchristianisée, imprégnée d'une religion militante, de l'humanisme, d'une religion séculière. Et ensemble, protestants et catholiques, on devient minoritaire. Donc pourquoi se diviser? En plus, nous avons sans doute tous des amis, des membres de la famille, de nos familles, des collègues catholiques avec qui on s'entend très bien. Moi, j'ai de bons amis catholiques. Au moins, ceux-là comprennent et apprécient le fait que nous croyons en Jésus-Christ. Il nous arrive aussi de croiser parfois des catholiques très zélés qui semblent de prime abord être sur la même longueur d'onde que nous. Que faire? Nous avons besoin de la clarté et de la compréhension. Et nous voulons aimer nos amis catholiques. Et pour les aimer vraiment, nous avons besoin d'être en mesure de leur expliquer l'évangile biblique. Et donc j'espère que cette mini-série de deux prédications peut nous aider à parler de notre foi, des fondements de notre foi de manière intelligente. Et j'espère que ce que nous allons voir va fortifier notre propre foi. Et nous centrer sur l'essentiel. Alors, comme on va voir ce matin et la semaine prochaine, ce n'est pas simple de résumer ces choses en 30 minutes, deux fois 30 minutes. On ne peut pas aborder toutes les nuances. On ne va sûrement pas être à la hauteur, mais on va quand même essayer d'être aussi clair que possible. Il y a un fascicule qui se trouve sur la table de littérature. C'est ce fascicule-ci. Et donc, il s'appelle « Les différences entre catholiques et protestants » par un monsieur qui s'appelle Monsieur Clayton. C'est un très bon livre, donc ce que moi je vais dire cette semaine et la semaine prochaine, moi je dois beaucoup à ce petit fascicule, et donc ils sont en vente à 2,50 €, donc si après vous dites « j'ai rien compris de ce qu'il a dit », voilà, donc vous pouvez lire ce livre, et vraiment je trouve que c'est très clair et très court, ce qui est toujours très bien. Alors dans les années qui ont suivi la publication de ces 95 thèses, Martin Luther, avec l'aide de l'imprimerie, parce que c'était le début de l'imprimerie, il est devenu un auteur très connu. Et par ses écrits, Luther cherchait à réformer l'Église catholique. C'est ce qu'il voulait faire. Il voulait la réformer de l'intérieur. Il voulait tout simplement que l'Église revienne au message simple de Jésus-Christ, de la croix. Et en particulier, du message de ce qu'on appelle la justification par la foi seule, en vertu non pas de nos mérites, de nos rites, même en vertu de nos sacrements d'Église, mais simplement en vertu de la grâce seule. Ce message du salut gratuit par la grâce seule, par le seul moyen de la foi, c'est vraiment le message qui était au cœur de ce mouvement de réforme. Et cette question de la justification par la foi seule, ou pour faire simple, comment Dieu nous sauve, était vraiment la cause matérielle de cette rupture entre protestants et catholiques. Et la semaine prochaine, nous allons nous pencher sur cette cause matérielle, cette question de comment Dieu nous sauve. On va le faire pour mieux comprendre cette redécouverte de l'Évangile au XVIe siècle et voir tout à nouveau combien c'est important. Mais ce matin, nous allons nous pencher sur ce qu'on peut appeler la cause formelle de cette réforme, c'est-à-dire la raison fondamentale, la différence fondamentale qui sous-tend tout. Et c'est la question de la place de la Bible. Je vais revenir en arrière. Lors d'un litige, comment peut-on trancher pour dire qui a raison? En France, c'est le juge qui va juger sur la base du code civil ou sur la base de la Constitution. Mais en matière de foi chrétienne, qui peut trancher? Comment savoir ce qui est vrai, ce qui est faux? Qui est-ce qui décide au juste? Et lorsqu'il y a une dispute dans l'Église, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est la question de l'autorité. Quelle autorité est l'autorité ultime qui décide, qui tranche, qui peut dire ce qui est vrai et ce qui est faux? Et cette question-là, elle est fondamentale, elle est vitale. Parce que la réponse à cette question façonne toute notre foi. Et en fait, cette question-là est à la base de toutes les différences entre les protestants et les catholiques. Pour faire très simple, de manière ultime, si on devait poser la question à un catholique cohérent, pourquoi croyez-vous ce que vous croyez? Il répondrait, parce que l'Église me l'enseigne. Et dans la logique catholique, il aurait raison de répondre ainsi. Et si vous deviez poser la même question à un protestant évangélique cohérent, c'est-à-dire quelqu'un qui répond sur la base de convictions protestantes historiques, il répondrait « parce que la Bible me l'enseigne ». Vous voyez bien la différence ?« Parce que l'Église me l'enseigne » pour le catholique et pour le protestant évangélique « parce que la Bible me l'enseigne ». Parce qu'il s'agit de l'autorité ultime en matière de foi. Alors pourquoi est-ce qu'on répond si différemment? Nous sommes là à la première question sur notre feuille ce matin, sur la feuille de route pour cet enseignement qui est un peu plus comme de la formation ce matin plutôt qu'une prédication. Alors ce qui va suivre va sembler peut-être un peu technique par moment, mais c'est important parce qu'on ne veut pas caricaturer ce que les catholiques disent, mais nous voulons vraiment comprendre ce qu'ils disent. Et ça, pour être en mesure de dialoguer de manière intelligente avec eux. On ne peut pas avoir des conversations qui tournent en rond ou on n'aboutit à rien. Donc, on va esquisser d'abord, assez succinctement, comment les catholiques romains arrivent à cette conclusion avant de l'aborder d'un point de vue plutôt protestant. Voilà notre première question. Et voici ce que l'Église catholique dit. C'est une citation de leur enseignement de Vatican II. L'Église a toujours vénéré les divines écritures. Donc ça, c'est la Bible. Toujours, elle eut et elle a pour règle suprême de sa foi les écritures, conjointement avec la sainte tradition. En gros, chez les catholiques disent que la parole de Dieu égale la Bible plus la sainte tradition. Ça, c'est ce qu'ils disent, c'est dans Vatican II, c'est cette citation. Et on parle d'une double source. Nous avons accès à la parole de Dieu en lisant la Bible, et selon les catholiques, nous aurions accès à la parole de Dieu en recevant la tradition de l'Église catholique. L'Église tout court, en fait. Les deux ensemble forment la parole de Dieu. Et là, c'est vraiment une différence fondamentale. Parce que le protestant évangélique va dire que la parole de Dieu qui fait autorité dans l'Église, c'est la Bible. Et parfois, en discutant avec les catholiques, on n'est pas tout à fait dans le vocabulaire, c'est pas très simple, parce que l'un va dire, oui, la parole de Dieu dit, mais le catholique va dire, oui, la parole de Dieu, c'est les Écritures plus la tradition. Et le protestant va, en disant la parole de Dieu, entend simplement les Écritures, la Bible. Alors, qu'est-ce que c'est cette sainte tradition? Parfois, je pense, en tant que protestant, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est la révélation des apôtres transmise à l'Église, donc en dehors de la Bible, un peu la tradition orale, est manifestée en gros dans trois choses. Donc ces trois choses ici dans cette liste. Les enseignements des pères de l'Église, ça c'est un peu les premiers pasteurs, les premiers évêques, théologiens, après le Nouveau Testament, donc 1er, 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, ils écrivaient des lettres, et donc nous avons ces lettres, et ces lettres, ces écrits forment aussi la base de la tradition. Ensuite, on peut parler des décrits des conciles de l'Église. Tout au long de l'histoire, il y a eu des conciles, des grandes conférences de beaucoup d'églises ensemble. Il y a eu des décrets. On peut penser aux choses comme les symboles de la foi, Nice et Constantinople, la Trinité, mais aussi les conciles comme le concile de Trente, après la Réforme, aussi Vatican I, Vatican II, ça forme la tradition de l'Église. Et finalement, on peut parler de ce qu'on appelle le magistère de l'Église, le magistère de l'Église catholique. C'est un peu l'enseignement officiel de l'Église catholique romaine. Et le pape, c'est la porte-parole infaillible de ce magistère. Ça ne veut pas dire que le pape, tout ce qu'il dit est infaillible, ce n'est pas ça ce qu'il pense, mais c'est juste au moment où le pape définit de manière claire les doctrines de la foi, de manière solennelle, il pense que voilà, ça fait autorité, et ça fait partie de cette tradition, cette sainte tradition. Et ce dernier aspect, ce magistère de l'Église, est très important dans l'Église catholique parce qu'il croit que ce magistère a l'autorité de donner la bonne interprétation des Écritures, la Bible et aussi la sainte tradition. Voici ce qu'on lit dans l'enseignement officiel de l'Église catholique et dans le catéchisme. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, c'est-à-dire la Bible ou la tradition, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire aux évêques en communion avec le successeur de Pierre, l'évêque de Rome, donc c'est-à-dire le pape. Alors, ce serait l'Église catholique, par son magistère, qui aurait finalement l'autorité de définir la bonne interprétation de la parole de Dieu. Et elle puise dans ces deux sources, la Bible et la tradition. Et son interprétation engage l'autorité qu'elle croit avoir reçue de Jésus-Christ. Donc, quelque part, lorsqu'elle définit ces choses, elle dit que Jésus dit ces choses avec autorité. Et ça engage la conscience des croyants. Les croyants doivent recevoir cet enseignement de l'Église catholique. Donc, pour le catholique, c'est l'Église qui, finalement, a l'autorité de définir ce qu'il faut croire ou pas. Pour être juste envers les catholiques, ils croient que ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais au service de la parole. Mais c'est quand même le magistère qui va articuler ce qu'il faut croire ou ce qu'il ne faut pas croire, qu'est-ce qui fait autorité dans l'Église en matière de foi. Alors pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? Sur quelle base est-ce que l'Église catholique se donne ce droit d'interpréter de manière infaillible les Écritures et la tradition? Alors, on n'a pas tout le temps pour évaluer ça en profondeur, mais nous avons vu dans cette citation ici de Vatican II que l'Église catholique exerce l'autorité de Jésus-Christ parce qu'elle croit que ses évêques seraient dans la succession des apôtres et le pape serait en particulier le successeur de l'apôtre Pierre. Les catholiques pensent qu'il y a cette lignée ininterrompue de pasteurs, d'évêques, et que ça leur donnerait l'autorité de donner cet enseignement avec autorité. Et c'est pour ça que le croyant catholique répond à cette question « Pourquoi croyez-vous ce que vous croyez ?» en disant « De manière ultime, c'est parce que l'Église me l'enseigne. » L'Église catholique croit pouvoir authentifier la bonne interprétation de la Bible et la tradition, parce qu'elle seule, dans la lignée de Pierre, serait la seule légitime pour le faire. Ça, c'est important de savoir pour nous, parce que dans nos conversations avec, peut-être avec des amis catholiques au travail ou dans le voisinage, on ne veut pas tourner en rond. Nous pouvons argumenter quelque chose et dire qu'ils ont tort. Mais en fait, selon eux, par définition, l'Église catholique a raison. Ailleurs, dans le catéchisme de l'Église catholique, nous apprenons que l'Église serait infailliblement tenue dans la vérité. Donc pour les catholiques, l'Église catholique ne peut pas se tromper. Il n'y aurait qu'elle qui a le droit de dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors pourquoi est-ce que les protestants disent non à cette autorité de l'Église catholique romaine? Et ça, c'est important de savoir parce que ça façonne toute notre foi. Alors, c'est en lisant la Bible que Luther a été convaincu du message évangélique du salut par le moyen de la foi seule et non par les sacrements d'Église et nos œuvres qui en découleraient. C'était vraiment en lisant la parole écrite, la Bible, que Luther a découvert un Dieu plein de grâce et un Dieu qui a tout fait pour le salut et la sécurité de ceux qui s'accrochent à Jésus seul. Luther, avec d'autres réformateurs, est revenu à la source de la foi chrétienne, à la Bible. Et il vivait mal le décalage qu'il voyait entre les pratiques de l'Église catholique de son époque et ce que la Bible disait. En lisant sa Bible, il commençait à faire la part des choses. Il commençait à voir ce que c'est l'Église et aussi les limites de l'autorité de l'Église. Il voyait que l'Église venait de la parole et pas l'inverse. Il commençait à mettre en doute le droit du pape d'être le chef de l'Église et d'avoir la capacité et l'autorité de donner la bonne interprétation de la parole, des Écritures. C'était en revenant aux sources que Luther commençait à comprendre que l'Église catholique qui voyait autour de lui et ses structures d'autorité étaient en décalage avec l'image qui ressort du Nouveau Testament. Dans ces discussions souvent très difficiles et dangereuses avec les autorités de l'Église catholique et aussi le Saint-Empire, Luther essayait de revenir aux Écritures en expliquant que même si la tradition, même si les pères de l'Église, des premiers pasteurs de l'Église, pouvaient être très utiles, étaient quand même des écrits importants, que les Écritures, seulement la Bible, avaient l'autorité en matière de foi. Dans un moment très célèbre, lors de la diète, c'est un peu comme une conférence officielle, lors de la diète de Worms en l'an 1521, devant l'empereur Charles Quint, quand on essaye d'obliger Luther à répudier ce qu'il avait écrit, Luther a dit à tout le monde, on va citer cette phrase célèbre, « Votre Majesté sérénissime et vos seigneuries m'ont demandé une réponse simple. La voici sans détour et sans artifice, à moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape, ni au concile seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits. Je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités. Et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement. Que Dieu me soit en aide. » Luther relevait qu'en effet, à de multiples reprises dans l'histoire des papes et des conciles, ces papes et ces conciles sont souvent trompés, sont contredits. En plus, Luther et les réformateurs étaient de plus en plus convaincus que l'Église était trompée dans ses dogmes qui semblaient être aux antipodes de ce que la Bible enseigne. À commencer par l'idée elle-même que l'Église peut se prononcer de manière infaillible, que l'Église elle-même a cette autorité infaillible. Et en effet, lorsque nous examinons les Écritures seules, sans les traditions, nous voyons un grand décalage entre ce qu'elles enseignent et ce que l'Église catholique enseigne au sujet du purgatoire ou des saints, des indulgences, des sacrements, de Marie, son Assomption, l'Immaculée Conception, son rôle de reine du ciel, du rôle du pape, du célibat des prêtres, la vénération des reliques et ainsi de suite. On voit ce décalage. Et nous sommes là au cœur de ce différent. Et au fond, c'est une question d'autorité. C'est une question qui concerne aussi la nature de l'Église. Nous avons déjà vu que l'Église catholique pense que Dieu a donné à l'Église, représentée par le pape et les évêques, de ne jamais faire d'erreur en matière de foi. Et les protestants ont dit non. L'Église peut très bien se tromper. Et elle s'est trompée à de nombreuses reprises. Et elle peut se tromper aussi à l'avenir. Seules les Écritures, seule la Bible parle de manière infaillible. Seules les Écritures peuvent être vraiment notre autorité ultime en matière de foi. Certes, la tradition peut être utile. On a besoin de l'aide de ceux qui ont étudié la Bible avant nous. Il ne faut pas juste jeter tout ce que les hommes ont dit. Mais de manière ultime, il n'y a que les Écritures, il n'y a que la Bible qui peut engager notre conscience, qui peut nous dire avec autorité ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire. Passons à ce troisième point, piste biblique pour étayer ce point-là. Est-ce que la Bible elle-même se comprend comme cette autorité ultime? Alors, on pourrait dire beaucoup de choses. C'est très difficile de parler de tout ça. On pourrait aller dans beaucoup, beaucoup de textes différents. Mais je vais juste relever quelques textes qui vont dans ce sens. En tant que protestant, on doit scruter la parole, les Écritures, pour voir exactement ce qu'elles disent et voir quelle est l'image qui ressort. J'aimerais commencer par le texte que j'ai lu au début, Marc chapitre 7. Dans ce passage, nous voyons que Jésus critique vertement les pharisiens et la tradition. Et Jésus revient à la parole pour étayer ses propos. Il revient aux Écritures, à ce qui a été écrit. Ces traditions avaient été créées pour les aider à ne pas pécher. Ils avaient au début un but pieux. Mais Jésus leur a montré qu'à force d'ajouter des choses aux Écritures, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il finit par remplacer la parole de Dieu. Il finit par annuler la parole. Alors c'est vrai, Jésus ne parle pas ici dans le contexte de l'Église, mais plutôt dans un contexte juif. Mais on peut toutefois relever la priorité des Écritures dans la manière de raisonner de Jésus. Et cette tendance fâcheuse de l'homme de remplacer la parole de Dieu avec la sienne. Alors au début de l'évangile de Matthieu, dans le passage où Jésus est tenté par le diable, qu'est-ce que Jésus fait? Quelle est la tactique de Jésus? Jésus revient aux Écritures, à ce qui a été écrit pour contrer les propos du diable. Jésus revient systématiquement aux Écritures. Alors, beaucoup plus loin, dans l'épître de Paul à Galates, on voit que même l'apôtre Pierre s'est trompé une fois de manière importante. Paul a dit que seule la vérité de l'évangile compte, seul ce que la parole, l'évangile dit avec autorité. Même un apôtre s'est trompé. Or, dans ses lettres du Nouveau Testament, l'apôtre Pierre ne parle aucunement d'une autorité, une succession après lui. Il ne parle pas d'un successeur apostolique. Il parle plutôt de comment les croyants, comment il va les aider à se souvenir de son enseignement. C'est pour ça qu'il a écrit des lettres, c'est pour ça qu'il a écrit des Écritures, pour que nous puissions les avoir après son départ. Et dans cette même lettre, la deuxième lettre de Pierre, on voit qu'il parle même des lettres de Paul comme étant des Écritures. Donc déjà, ils avaient cette conception que leurs écrits allaient devenir les Écritures. Dans sa lettre au jeune pasteur Tite, c'est à la fin de sa vie, Paul prépare la prochaine génération pour savoir comment faire dans l'Église. Qu'est-ce qu'il sait? Il faut qu'il reste fidèle à ce qui a déjà été enseigné. Et nous trouvons ce que les apôtres ont enseigné dans le Nouveau Testament. Mais on n'a pas d'écrit des apôtres, à ma connaissance, on n'a pas d'autres écrits des apôtres, d'autres livres en dehors du Nouveau Testament. Et dans sa deuxième lettre à Timothée, un de ses derniers écrits, l'apôtre Paul lui explique, et je cite donc 2 Timothée 3, verset 16, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et là, l'apôtre Paul nous enseigne ce qu'on appelle la suffisance des Écritures. Elles contiennent tout ce dont nous avons besoin de savoir pour être sauvés, pour connaître Dieu et pour vivre pour lui. On n'a pas besoin d'autres paroles pour savoir comment vivre pour lui. Et ces quelques versets commencent à former une image de cette autorité ultime. Alors, c'est vrai, il faudrait passer beaucoup plus de temps pour voir ça de manière plus claire, mais déjà, ces versets, ces citations nous mettent sur la bonne piste. Les Écritures sont suffisantes. Les hommes, y compris les apôtres, sont sujets à des corrections. Nulle part nous avons l'idée d'une deuxième ou troisième génération de pasteurs ou évêques qui ont l'autorité d'engager la conscience des croyants sur la terre. Alors, on va terminer avec quelques pistes pratiques. Pourquoi est-ce que nous avons parlé de ça ce matin? Pourquoi parler de ce différent avec l'Église catholique romaine? Alors, j'espère que ces moments ce matin vous aideront à mieux comprendre vos amis catholiques, à mieux comprendre pourquoi ils sont si attachés à ces traditions, à l'autorité de l'Église catholique, au pape, pourquoi ils s'accrochent à ces choses qu'on ne voit pourtant pas dans la Bible. C'est parce que de manière pratique ou de manière effective, la Bible n'est pas leur autorité ultime. Humblement, j'aimerais vous soumettre que de ne pas avoir les Écritures, la Bible, comme autorité ultime, est une situation qui est spirituellement très dangereuse. Et Jésus, on le voit dans le passage qu'on a lu dans Marc 7, il met son doigt sur le problème. On risque, même avec de bonnes intentions, même si on justifie nos actes, nos traditions, avec de la théologie, avec des idées pieuses, en fait, notre tendance sera toujours d'annuler la parole de Dieu, à faire le contraire de ce que Dieu a dit. On va voir la semaine prochaine en parlant de comment Dieu nous sauve par Jésus, par la foi, par la grâce, que si nous n'écoutons pas la parole, nous dénaturons l'évangile lui-même, c'est l'évangile qui nous sauve, c'est important. Nous nous éloignons de la foi en Jésus, cette foi à laquelle Jésus nous a appelés. Et c'est une situation périlleuse. Si on pense au récit de toute la Bible, si on pense à Adam et Ève, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? En fait, ils ont remplacé la parole de Dieu avec une autre parole. Finalement, avec la leur, avec des conséquences catastrophiques. Alors, ce danger n'est pas que celui des catholiques. Eux, ils le font de manière assumée, en parlant du pape et de Marie, etc. Mais ce danger nous guette tous. On peut ajouter nos traditions évangéliques à la foi. Et parfois, sans savoir, inconsciemment, on les érige au même niveau que la Bible. On peut le faire avec une confession de foi ou avec un catéchisme. On l'a cité ce matin au début du culte, le catéchisme de Westminster. On peut le faire aussi avec nos confessions de foi de l'Église, ces documents qui résument le foi. On peut donner beaucoup trop d'importance à ces choses et dire aux croyants qu'ils doivent les croire tout ce qu'il y a dedans et engager la conscience. Non, c'est la Bible seule. Alors, les traditions ne sont pas forcément mauvaises en elles-mêmes. Elles peuvent être bonnes. On a allumé ce matin une bougie. Est-ce que c'est dans la Bible? Il faut évaluer ce genre de tradition et les soumettre à la parole. La parole, les Écritures sont vraiment l'autorité ultime qui font autorité en matière de foi. On peut parfois accorder trop d'importance à nos sentiments, à nos expériences spirituelles, à nos intuitions spirituelles. On peut les suivre aveuglément en disant que Dieu m'a dit ou j'ai le sentiment que Dieu me dit. On doit soumettre ses sentiments, ses expériences à l'autorité de la parole pour voir ce que les Écritures disent. En tout cas, j'espère que vous voyez que sans cesse, on doit revenir à la Bible pour entendre ce que Dieu nous dit et ne pas suivre notre propre voie. Donc, je vous invite à cet égard à prier pour vos anciens qui vous enseignent la parole, pour qu'ils restent fidèles à la parole. Et aussi, je vous invite à être comme l'église de Béret qui a scruté la parole même lorsque l'apôtre Paul l'enseignait. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, garder vos Bibles ouvertes pendant la prédication, pendant l'enseignement, pour voir est-ce que le pasteur dit vrai. Parce qu'en fin de compte, c'est la Bible qui compte. C'est elle qui a l'autorité, c'est pas le pasteur, c'est pas les anciens. Ils ne parlent pas de manière infaillible, c'est que la Bible qui peut parler de manière infaillible. Et vis-à-vis de nos amis catholiques, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, on veut les orienter vers la Bible. On veut qu'ils lisent la Bible. C'est vrai, on peut lire la Bible avec un carcan ecclésiastique qui dicte ce qu'il faut croire, qui dicte notre manière de lire. Nous, on peut faire ça aussi. Mais la Bible elle-même est vivante et puissante. Voici ce que l'Esprit de Dieu dit à propos des Écritures dans la parole, dans l'Épître aux Hébreux. Nous lisons, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » On va inviter tout le monde à lire ces Écritures qui sont vivantes, qui parlent par l'Esprit, pour que chacun voit leur message. Alors, je remercie le Seigneur d'avoir suscité des gens comme Luther, les réformateurs. Et si nous sommes leurs héritiers, on ne veut pas faire d'eux des papes infaillibles, mais on veut quand même suivre leur exemple en revenant semaine après semaine aux Écritures, là où Dieu a parlé avec autorité. Parce que c'est là où Dieu parle, pour nous donner la vie, pour nous montrer qui il est. On le voit à Noël, Jésus vient, et on découvre avec beaucoup plus de clarté qui est Dieu. Il y parle pour nous montrer sa grâce. Il y parle pour nous montrer la bonté, la splendeur de Jésus-Christ, ce Sauveur en qui nous avons la vie, par la foi seule, en qui nous avons l'assurance du salut. On va voir plus ces thèmes la semaine prochaine. En tout cas, je vous invite à la prière. Prions. Merci notre bon Père Céleste pour ces Écritures qui nous conduisent à Jésus pour avoir la vie. Et merci pour ces hommes courageux comme Martin Luther qui, il y a 500 ans, ont mené la réforme pour que nous puissions revenir aux Écritures, pour voir avec lumière ce que tu nous dis. Père, nous voulons prier pour ceux qui sont esclaves de traditions qui les empêchent de voir Jésus, d'avoir ce salut, cette sécurité. Qui puisse lire cette parole. Donne-nous des occasions de partager les Écritures cette semaine avec ceux qui nous entourent, ceux qui sont d'origine catholique, mais aussi avec d'autres qui ne le sont pas. Et aide-nous, Seigneur, à nous accrocher à ta parole. On est faible aussi. On a tendance à croire à nos propres paroles, nos propres traditions. Garde-nous de ces dangers, Seigneur. On est faible. Nous avons besoin de ta grâce. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.
Voilà, merci.